France Culture, grand reportage, t'arraches les gueules.
Le peuple ukrainien cherche des alternatives. On a marre des élites politiques. C'est pour ça que beaucoup de gens veulent voter pour Zelensky.
Je pense qu'un comédien, qu'un showman ne peut pas être le président de l'Ukraine. Pour moi, c'est important que le président soit une personne forte, avec de l'expérience. Il n'y a rien de tout ça dans la candidature de Zelensky. C'est juste une clownerie.
Pour moi, c'est pas important qui devient président. Si cette personne peut finir la guerre, je veux la paix, sans armée, sans soldats.
Que reste-t-il de l'esprit du Maïdan, le souffle révolutionnaire qui s'était emparé de la société civile ukrainienne pendant l'hiver 2013-2014, souffle qui avait chassé du pouvoir le président Yanukovych et sa clique pro-russe pour installer à sa place le milliardaire Porochenko qui promettait un ancrage européen et une lutte sans merci contre les oligarques. À en croire les sondages, le mania du chocolat n'a pas entièrement convaincu son peuple. Il plafonne à 15% des intentions de vote. Le scrutin aura lieu le 31 mars prochain. Lui, qui avait pourtant remporté haut la main la présidentielle en 2014, 54% des suffrages au premier tour. Pourtant, des réformes ont vu le jour ces dernières années en Ukraine, dans l'éducation, la santé, la transparence des marchés publics, la décentralisation, réforme partielle de la police aussi. Le pays a renoué modestement avec la croissance, mais la corruption reste un fléau endémique. Malgré la création d'un bureau national qui traque à l'aide de ses 700 agents les détournements de fonds et autres pots de vin récurrents, les enquêtes s'enlisent dans un système judiciaire auquel les citoyens ne font absolument pas confiance. Et puis il y a la guerre, toujours dans l'est du pays, dans le Donbass, 13 000 morts au moins, la perte de la Crimée, la menace russe, des salaires très insuffisants. Bref, le président Porochenko a du mal à défendre son bilan. Face à lui, la passionnariat de 2004, Yulia Tymoshenko se présente pour la troisième fois. Et parmi les 44 candidats en lice, un acteur, on pourrait dire un clown même, Volodymyr Zelensky, pourrait jouer les troubles fêtes. Présidentielle en Ukraine, la comédie du pouvoir, c'est un grand reportage signé Claude Brouillot. Pour écouter et commenter ce grand reportage, nous avons le plaisir d'accueillir en cette journée internationale du 8 mars deux femmes dans ce studio, deux spécialistes de l'Ukraine. Bonsoir mesdames.
Bonsoir.
Alors Anne de Tinguy, vous êtes professeure émérite des universités à l'INALCO, chercheuse aussi aux séries Sciences Po. Vous allez publier d'ici quelques jours La Russie dans le monde, CNRS édition. Et puis vous avez dirigé Regard sur l'Eurasie 2019, une revue qu'on peut trouver en ligne en ce moment même et à laquelle a contribué notre deuxième invité. Bonsoir Annie Daubenton.
Bonsoir.
Journaliste, vous avez été correspondante de Radio France à Moscou dans les années 90. Vous avez aussi été conseiller culturel à l'ambassade de Kiev, à l'ambassade de France à Kiev, pardon. Et puis vous avez publié en 2014 Ukraine, l'indépendance à tout prix aux éditions Buchet-Chastel. Et nous sommes en duplex à Moscou avec un homme. Bonsoir Claude Brouillot.
Bonsoir.
Vous signez le grand reportage de ce soir, Claude, et vous rentrez donc d'Ukraine, pays qui est en pleine campagne électorale, on va l'entendre, mais pays qui est également en guerre. Est-ce que la question du Donbass tient une part importante dans le discours électoral ?
Oui, elle est présente hein, dans la rhétorique des candidats, au premier rang desquels figure bien sûr Petro Porochenko, qui brandit d'ailleurs régulièrement la menace russe comme un argument de campagne qui, espère-t-il, doit guider l'électorat vers le choix d'un président à poigne, lui en l'occurrence, capable de tenir tête notamment au Kremlin et de faire valoir les positions ukrainiennes hein, sur la scène internationale. Mais dans la vie quotidienne, même durant les 30 jours de loi martiale en décembre dernier, il fallait surtout aller dans les grandes villes au sud-est de l'Ukraine pour ressentir réellement les tensions du conflit. Comparativement à Kiev, par exemple, c'est beaucoup moins palpable.
Alors on écoute justement votre reportage, Claude, qui commence à Kiev, dans la capitale ukrainienne.
Добрый вечер, дорогие друзья! Как настроение? Добре! Дуже добре! Не чути вас!
Comme toujours ce soir-là, la salle est archi-comble, conquise d'avance. Sur scène, costume sombre sur chemise blanche, Volodymyr Zelensky, en showman accompli, joue avec son public. La muse aujourd'hui le plus célèbre en Ukraine se revendique d'abord clown et fier de l'être.
А
Mais à 41 ans, celui qui a séduit les téléspectateurs du pays dans un film où il jouait le rôle d'un professeur d'histoire qui devient président de l'Ukraine a finalement décidé de franchir le pas. Et pas n'importe comment. La nuit du Nouvel An, sur une télévision privée, en lieu et place des vœux du président Petro Poroshenko, Volodymyr Zelensky a mis les pieds dans le plat en annonçant sa candidature à l'élection présidentielle du 31 mars. Ainsi, celui qui en Ukraine, mais aussi en Russie, a su se tailler une belle part de popularité en dénonçant régulièrement sur le mode ironique des élites ou des administrations corrompues, se fait fort aujourd'hui de devenir l'homme qui luttera efficacement contre ce fléau. Et très vite, la greffe a pris. Même si les sondages liés à des médias commanditaires, souvent partisans, restent sujets à caution, Zelensky revient régulièrement en tête ou dans le trio de tête des intentions de vote aux côtés du président Poroshenko et de l'ancienne première ministre Yulia Tymoshenko, charismatique leader de la Révolution Orange, il y a déjà 15 ans. Soutenu par l'oligarque Igor Kolomoïski, dont la fortune personnelle est estimée à 1 milliard de dollars, Zelensky a monté en quelques semaines son équipe de campagne et inauguré ses premières permanences. L'une d'entre elles, sans doute pour toucher le maximum de monde, a été installée au cœur d'un complexe commercial au centre-ville de Kiev. À l'intérieur, une demi-douzaine de permanents en t-shirt vert accueillent les sympathisants en quête d'informations sur le programme très général du candidat. Joséphina, 75 ans, ancienne professeure de mathématiques, est venue, elle, pour obtenir de l'aide après l'arrestation de son fils qu'elle juge arbitraire.
Elle est venue pour chercher aide auprès de Volodymyr Zelensky.
De quelle aide elle a besoin ?
Juridique.
Problème très grand. Несправедливо мого сина бізнесмена ограбили. Служба СБУ і військова прокуратура.
Elle dit qu'elle est venue chercher aide pour protéger son fils. En ce moment, il est incarcéré. Il était businessman. Il était incarcéré par le SBU et la police militaire.
Joséphina repartira réconfortée par un bénévole de la campagne Zelensky. Ce jour-là, la permanence de l'humoriste candidat ne désemplit pas. D'abord surpris, jeunes et moins jeunes, viennent aussi toucher du doigt la réalité de cette candidature qui, pour certains, apparaît également comme un moyen de dire non à l'absence de renouvellement des leaders politiques en Ukraine. Olga Butchma est politologue rattachée à l'université Shevchenko de Kiev.
C'est un phénomène surprenant puisqu'il est assez nouveau. Il n'a pas présenté ses ambitions présidentielles que depuis quelques mois. Ce qui n'est pas surprenant, c'est que le peuple ukrainien cherche des alternatives. On a marre des élites politiques et il n'y a pas vraiment beaucoup de changements. C'est pour ça que beaucoup de gens veulent voter pour Zelensky. Juste pour montrer qu'ils ne sont pas d'accord avec la politique tous les ex-présidents, etc. Ce qui est évident, c'est qu'il manque la maîtrise de certains sujets politiques, la sécurité, la politique interne, la macroéconomie. Il sait se comporter en public, mais quand il s'agit de questions vraiment importantes pour un pays en guerre, pour un pays dont la situation économique n'est pas tellement stable, il est vraiment important de maîtriser bien beaucoup de sujets liés à l'économie générale et d'autres questions. Quand on n'a pas ni étudié ni participé à la vie politique, on ne peut pas l'apprendre en 3-5 mois.
Les lacunes de la candidature Zelensky passent évidemment au second plan pour ses sympathisants. Alexander, par exemple, économiste et activiste de la campagne du showman, est persuadé que l'Ukraine a besoin d'un tel profil pour aller de l'avant. Les critiques ne comptent pas pour lui. L'absence d'expérience politique ou le rôle de marionnette au profit de son mentor, Igor Kolomoïski, l'oligarque milliardaire, propriétaire entre autres d'une chaîne de télévision privée qui veut la chute de Poroshenko pour récupérer une partie de ses avoirs gelés, n'existe donc pas dans l'engagement d'Alexander aux côtés de Volodymyr Zelensky.
Heureusement, il n'est pas tout seul. Il a une équipe de professionnels. C'est une équipe des gens très peu connus. Mais vous savez, en Ukraine, il y a des gens très peu connus qui font du succès, hein, qui ont aussi quand même su faire leur fortune dans différents business, par exemple dans le secteur IT. Et ça, on l'ignore. Par exemple, les oligarques ukrainiens, ils croient que seulement les hommes d'affaires qui sont proches des oligarques ou des hommes politiques ont le droit de faire fortune en Ukraine. Or, maintenant, on voit une nouvelle génération des hommes d'affaires qui sont très peu connus, qui sont aussi talentueux et qui maintenant aussi ils ont envie d'investir dans la nouvelle génération qui doit venir, qui devait venir depuis longtemps en Ukraine, après la Révolution Orange, après l'Euromaïdan, parce que la population, je peux pas dire franchement qu'ils en ont marre, mais en ce moment, c'est une revanche. Revanche qui est là, qui est bien présente. Personnellement, pour moi, c'est un vote de conviction pro-européen. Zelensky a travaillé dans beaucoup de chaînes ukrainiennes, mais on ne peut pas lui reprocher d'être une marionnette d'un propriétaire de Kolomoïski, par exemple. Il a travaillé sur la chaîne Inter et on ne lui reprochait pas qu'il était partisan de par exemple, Khorochovski, qui était aussi ancien propriétaire d'une autre chaîne. Je ne peux pas vous dire s'il y a une indépendance de vue, parce que la vue de Kolomoïski, en ce moment, bah, les Ukrainiens, ils la connaissent pas. On connaît pas les intérêts de Kolomoïski en ce moment.
Le véritable homme fort derrière la candidature surprise de Volodymyr Zelensky, Igor Kolomoïski, soutiendrait donc de façon totalement désintéressée l'artiste en haut de l'affiche politique. Difficile à croire quand on sait que Kolomoïski, ancien gouverneur de Dniepropetrovsk, à la triple nationalité ukrainienne, chypriote et israélienne, a été poussé à la démission il y a tout juste 4 ans par le président Porochenko, car soupçonné qu'il était à l'époque d'avoir exercé de fortes pressions dans sa région sur des représentants locaux d'une entreprise d'État. Que cherche Kolomoïski à travers la candidature de Zelensky et plus généralement jusqu'où vont les luttes d'intérêts entre les oligarques ukrainiens impliqués de près ou de loin dans la course à la succession de l'un des leurs, en l'occurrence Petro Poroshenko. L'analyse d'Olga Butchma.
Il cherche peut-être à récupérer ses moyens, oui, qu'il a perdu à l'heure de la nationalisation de la banque la plus grande. Il peut exister beaucoup d'autres raisons qu'on ne connaît pas. En fait, comme j'ai déjà dit, certains candidats cherchent à s'afficher, à se présenter devant les élections parlementaires. Donc, ça peut être aussi une des raisons. Parce que sa partie n'existe que quelques mois, jusqu'à octobre. Il peut avoir le temps de préparer sa base électorale aussi, sa base organisationnelle. Parce que pour le moment, Tymoshenko et Poroshenko ont évidemment une structure très bonne, très bien formée. Tandis que Zelensky n'a qu'une équipe qui s'élargit bien sûr, mais qui n'est pas tellement bien structurée.
Quand vous décrivez tout ça, on a l'impression que ce sont les oligarques qui font de la politique par candidats interposés.
Pour certains candidats, évidemment. Je crois qu'il existe une certaine bataille entre les oligarques ukrainiens et ça fait partie d'un échiquier. Donc, bien sûr, chacun d'entre ces oligarques a ses intérêts. Et beaucoup d'autres oligarques appuient et supportent d'autres candidats. La démocratie n'est pas parfaite en Ukraine. Cette campagne électorale la montre avec la bataille qui s'ensuit dans les chaînes de télé, qui sont possédées par, normalement par des oligarques. Donc oui, cette partie de démocratie qui n'est pas tellement parfaite existe, mais en même temps ça améliore. Il existe d'autres moyens et d'autres mécanismes de récolte. Il existe déjà d'autres partis politiques qui ne font pas partie de ce système fermé contrôlé par les oligarques.
À l'écart des grandes manœuvres sur fond d'intérêts politiques et souvent financiers auxquels se livrent les candidats et leur soutien, pourrait-il rester alors l'idée d'une jeunesse ukrainienne qui se reconnaîtrait dans le dynamisme et la réussite de Volodymyr Zelensky à la tête d'une entreprise de spectacle dont la marque Quartier 95 s'exporte aujourd'hui dans une vingtaine de pays. Jeune trentenaire, marié et père d'un enfant, Constantine travaille en horaire décalé pour une société américaine. Naturellement tourné vers l'Europe, où il a vécu une partie de sa jeunesse, Constantine considère pourtant le profil de la candidature Zelensky comme trop léger quand il le rapporte à la situation de l'Ukraine, son pays encore en guerre.
Nous, on vote en ce moment pour un chef d'État qui sera en premier lieu un chef militaire. Et en cette fonction, Il n'y a pas beaucoup de candidats qui puissent l'être, qui puissent donner des ordres à l'armée. Et il n'y a pas beaucoup de candidats qui pourraient supporter ce poids énorme de la guerre qu'on a aujourd'hui.
Là, c'est un petit peu le portrait type de Poroshenko que vous êtes en train de dessiner, là.
En quelque sorte. Oui, mais y en a d'autres candidats qui sont aussi militaires. Mais au même coup d'être un militaire, il faut être aussi un diplomate. Donc, on vote aussi pour un porte-parole international qui sera respecté dans le sein de l'Union européenne, dans le sein de la Maison Blanche. Donc, une personne qui dira des choses, et ces choses seront crédibles. Donc, voilà.
Donc, Zelensky, finalement, même s'il y a un profil séduisant, ça reste quand même pas sérieux, au final, quand on met ça sur la balance, l'échiquier international.
Choisir un chef d'État, c'est très, très important. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut mettre sur la balance. Je pense qu'il a besoin d'avoir un peu plus d'expérience politique. J'aurais penché mon choix vers lui si au moins il aurait un an d'expérience politique. On a déjà l'expérience de Klitschko, qui était un choix très séduisant, mais il n'avait pas d'expérience politique.
Le maire de Kiev.
Oui,
le boxeur maire de Kiev.
Oui, on ne voudrait pas voir les mêmes erreurs qu'avait fait Klitschko, donc avec Zelensky. Donc je pense que Zelensky, il doit avoir au moins un peu plus d'expérience pour le faire.
Nous quittons Constantine et la capitale de l'Ukraine pour nous rendre dans la plus grande ville du pays, la plus à l'ouest, aux portes de l'Union européenne. À mi-chemin entre Berlin et Moscou, se situe Lvov, l'ancienne Lemberg, et ses 700 000 habitants dans la Galicie orientale, région écartelée par les fracas de l'histoire entre la Pologne, l'Empire austro-hongrois, l'URSS et depuis 28 ans, devenu le poste avancé de l'Ukraine indépendante. À Lvov, le phénomène Zelensky semble avoir épargné la jeunesse locale. Nous sommes à l'université Léopolensis, encore un ancien nom de Lvov, fondée en 1661. C'est l'heure de l'intercours et les conversations vont bon train, mais ne concernent guère le premier tour de la présidentielle et encore moins la candidature de Zelensky, qui fait beaucoup rire Marco, étudiant en langue étrangère.
Ce que je pense, c'est que les élections sont plus importantes que celles de 2014. Parce que je vois régulièrement sur ma page Facebook des idées revanchardes. Et ça, j'ai vraiment pas envie que ça arrive.
Qu'est-ce qu'il pense de la candidature dont on parle beaucoup, de Zelensky, par exemple?
Dieu merci, mais non. Zelensky, ça va comme acteur, ça va comme artiste ou comédien, mais pas du tout comme politicien, pas du tout.
Pour qui il va voter, lui, alors?
Pour l'instant, je ne sais pas encore pour qui je vais voter. Mais en revanche, j'ai déjà la liste des candidats pour qui je ne vais pas voter. J'hésite encore. En tous les cas, ce ne sera pas pour Zelensky. Pas du tout. Mais je ne sais pas qui va voter pour Zelensky. D'un côté, on dit que c'est plutôt les jeunes qui vont voter pour lui. Et d'un autre côté, on dit que les jeunes ne votent pas. Donc finalement, c'est difficile à dire.
Ça ne risque pas de discréditer l'Ukraine, savoir que c'est un humoriste, un acteur qui est en tête dans les sondages à l'élection présidentielle. Est-ce qu'il n'y a pas le risque qu'on dise de l'Ukraine, c'est pas sérieux?
Bon, on verra bien. Mais franchement, je ne pense pas qu'il sera président.
Je préférerais que ce soit encore Poroshenko, alors.
Si je dois choisir entre Poroshenko et Zelensky, je préférerais Poroshenko.
À quelques mètres de Marco se tient, un peu voûté, en costume gris foncé et cravaté, Roman Povirko, chef du département de philologie romane. À 65 ans, le professeur qu'il est encore tente de replacer le scrutin présidentiel ukrainien et son effet Zelensky sur une échelle de l'histoire récente du pays et surtout sur celle de ses relations avec le grand voisin russe, encore beaucoup trop présent aux yeux du professeur.
C'est un jeune pays. Et alors, chacun pense qu'il sera une vedette. On dit à propos de Zelensky qu'il a des usines à Moscou, etc., etc. Chez nous, les Russes doivent parler ukrainien, même s'ils ne veulent pas, parce qu'il n'y a pas autre issue ici.
Ici, on n'aime pas les gens qui parlent russe.
Mais à quoi bon ? À quoi bon ? Surtout maintenant, maintenant, parler les Russes chez nous, c'est un crime. À cause des déportations en Sibérie, ils veulent seulement ça, dominer. Ce qu'ils disent, mensonge. Ils doivent aussi savoir ce qu'ils ont fait avec nous, à l'Ukraine de l'Est. Ils ne disent pas la vérité jusqu'à nos jours. Je n'ai rien contre la langue russe, mais je suis contre les Russes eux-mêmes. Maintenant, ils déjà ne sont pas d'accord qu'il y a une telle grande ukrainisation. Voilà. Ils ne sont pas d'accord. Ah, c'est nationaliste, etc. On commence déjà.
La question prioritaire des relations critiques avec la Russie figure déjà dans la rhétorique des principaux candidats à la présidentielle ukrainienne. Elle aurait pu nourrir aussi à volonté la campagne des partis nationalistes, au premier rang desquels figure Corpus, par exemple, qui revendique 200 000 militants dans tout le pays en 3 ans d'existence. À Lvov, pourtant l'une des villes symboles de l'armée qui a défendu l'éphémère République populaire d'Ukraine occidentale de 1919 à 1923, avant qu'elle ne soit engloutie par les bolcheviks, le siège des nationalistes de Corpus ne paie pas de mine. On accède par un escalier vétuste à 3 pièces sans âme au 5e étage d'un vieil immeuble du centre-ville. Son responsable, Vladislav Slivitch, dénigre le scrutin présidentiel et défend la ligne du parti qui a refusé de présenter un candidat.
Nous avons un leader qui a pris la décision de ne pas participer à cette farce. Parce que pour lui, ces élections représentent un choix qui n'en est pas un. Et donc nous concentrons plutôt nos efforts sur les élections au Parlement qui auront lieu en novembre prochain. Pour nous, ce sera plus important d'obtenir des places au Parlement. Je pense qu'un comédien, qu'un showman ne peut pas être le président de l'Ukraine. Pour moi, c'est important que le président soit une personne forte, avec de l'expérience. Il n'y a rien de tout ça dans la candidature de Zelensky. Il n'a aucune expérience de la guerre, il n'a pas de relations politiques avec les gens. C'est juste une clownerie, ce ne sont que des belles paroles. Son programme, c'est juste des mots vides de sens. Quand on est nationaliste ukrainien, ça ne veut pas dire qu'on rejette les autres nationalités. On comprend très bien qu'il y a d'autres personnes, on ne peut pas vivre seul, on vit toujours entouré d'autres gens, c'est normal. Pour moi, le nationalisme, c'est quand tu sacrifies ton intérêt personnel pour l'intérêt de la nation.
On a vu en bas, en arrivant, dans l'escalier en bas, il y a une croix gammée. Et qu'est-ce qu'il en pense, quoi ?
Mais peut-être que c'est juste une provocation, car tout le monde dans toute l'Ukraine connaît le symbole de Corpus. C'est peut-être juste un jeu d'enfant. Si quelqu'un a inscrit une croix gammée ou d'autres symboles indignes, c'est juste pour provoquer.
Il n'a pas envie de l'effacer, cette croix gammée, dans l'escalier qui monte à son bureau.
D'abord, premièrement, je ne l'ai pas vu, cette croix gammée. Et deuxièmement, ça peut signifier n'importe quoi. Parce que la croix gammée a une signification beaucoup plus ancienne qu'à l'époque de Hitler. Donc c'est peut-être quelqu'un qui est adepte de la culture orientale, parce que la signification de la croix gammée a des racines dans l'orientalisme.
Il veut venir la voir avec nous, là ou...
Il a dit que...
Ouais.
Il
y a beaucoup d'étudiants qui viennent ici pour fumer et faire des trucs comme ça. C'est peut-être eux qui ont fait ça. On va l'effacer et refaire cette partie du mur. C'est juste le jeu de la provocation. On peut voir que ça a été fait par de la cendre de cigarettes. Ce n'est pas nous. Nous, à Corpus, on est pour préserver la santé. Nous, on est contre la cigarette. On est contre l'usage des drogues.
Avant de prendre congé, Vladislav Slivitch ne veut pas que l'on confonde le nationalisme ukrainien d'aujourd'hui, construit surtout, dit-il, à partir d'une résistance face à la menace russe en Crimée et dans le Donbass, avec celui d'hier, marqué un temps par ses dérives sanglantes aux côtés des nazis. Pour tenter de convaincre encore, il dit qu'il trouve très bien, par exemple, qu'Israël dispose à nouveau depuis 4 ans d'un consulat à Lvov. Retour maintenant à Kiev, où la campagne, à l'approche de la dernière ligne droite, a pris carrément un tour polémique sur fond d'accusations de corruption et surtout de fraude. Rien ne serait pire en effet pour l'Ukraine que le constat de malversations à grande échelle. Un scénario toutefois peu probable pour Olga Bouchma, politologue.
C'est vrai que maintenant qu'il y a beaucoup d'attention de la part de la communauté internationale aux élections en Ukraine, les risques de fraude sont assez limités. Parce que c'est vraiment important pour le pouvoir ou pour les candidats qui vont gagner de montrer qu'ils ont gagné d'une manière légale pour qu'ils soient acceptés par des partenaires internationaux. L'OSCE, d'autres organisations internationales, mais aussi d'observateurs indépendants vont en Ukraine pour couvrir des élections, pour voir que ça se passe légalement.
C'est important que le scrutin, le résultat du scrutin soit crédible.
C'est important, premièrement, pour les citoyens en Ukraine, parce qu'il y avait, bien sûr, 2004, oui, l'histoire avec le scrutin, c'était assez pénible. Donc, on ne veut pas revenir à ces fautes.
Élection sous haute surveillance, donc la présidentielle ukrainienne marquera, quel que soit le résultat, une étape très importante pour le pays vers la consolidation de son indépendance, notamment vis-à-vis de la Russie, ou vers sa fragilisation. Pour le vainqueur, le plus dur commencera alors dans la perspective du scrutin parlementaire prévu à l'automne, avec une priorité, obtenir une assise majoritaire suffisante pour ne pas, dès le début de son mandat, perdre une partie de son crédit à l'intérieur et à l'extérieur des frontières de l'Ukraine. Et au-delà de la candidature Zelensky, qui brouille les cartes aujourd'hui, le duel que se livrent depuis plus de 15 ans maintenant Petro Poroshenko et Yulia Tymoshenko trouvera son épilogue pour Olga Bouchma, qui prédit à moyen terme la montée en puissance de nouvelles forces sur la scène politique ukrainienne.
Quel est le programme de Poroshenko ? C'est plutôt le patriotisme, les choses comme l'armée, la langue et aussi l'indépendance de l'Église, ce qui est important pour beaucoup d'Ukrainiens. Et je crois qu'il a son segment des électeurs qui vont voter pour lui. En ce qui concerne les relations internationales, il est évident qu'il est pro-européen dans son discours et aussi anti-russe, ce qui est clair. C'est peut-être un des moyens d'influencer l'opinion publique. Il faut dire que presque tous les candidats utilisent un ou l'autre moyen de manipuler l'opinion publique. Pour Tymoshenko, c'est le discours de pauvreté. Un de ses slogans, c'est de diminuer les prix de gaz deux fois, ce qui est presque impossible dans les conditions de notre pays, qui est dépendant de crédits internationaux. Donc il y a beaucoup de manipulations. Et si on compare le discours de beaucoup de candidats, je crois que Tymoshenko est un des candidats dont les affirmations ne sont pas toujours très vraies et basées sur les arguments.
Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui de la conscience politique des Ukrainiens, leur capacité à être critique vis-à-vis de l'offre politique?
Je dirais qu'il y a beaucoup à améliorer. Malheureusement, beaucoup de gens en Ukraine vont croire à ses promesses. Mais je dirais que c'est une sorte de vague de populisme qui existe non seulement en Ukraine, mais qui se répand malheureusement maintenant dans beaucoup de pays d'Europe et d'autres pays. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il existe un processus sur le niveau des régions. Ça améliore peu à peu. Il existe aussi une société civile qui devient plus forte, qui devient plus organisée. Et je crois que ça, c'est un des avantages qu'il faut utiliser, c'est un des atouts. Bien sûr que cette campagne présidentielle n'est pas parfaite, absolument, mais il ne faut pas ignorer d'autres dimensions de la vie politique en Ukraine. Il existe aussi une plateforme qui s'appelle RPR, Réanimative Paket Reform, qui réunit plus de 60 organisations de société civile et il essaie de parler d'une voix. Donc, ils présentent leur position à la communauté internationale et ça crée aussi de pression sur le gouvernement, sur les partis politiques. Donc, quand je parle d'une société plus forte, j'imagine que c'est un des éléments. D'autre côté, il y a des organisations civiles qui se forment sur la base de certaines revendications, comme les droits de l'homme, ce qui est aussi important, parce que la démocratie, ce ne sont pas seulement les élections. La démocratie signifie aussi que les gens peuvent influencer la prise de décision.
Encore assez loin de ces enjeux, il y aurait donc à l'intérieur de l'Ukraine des initiatives qui se lancent pour peser à terme peu ou prou sur l'avenir du pays. Originaire de Lugansk, dans le Donbass, Christina, qui a quitté sa région en guerre pour étudier à Kiev, n'est pas encore prête à s'investir. Elle alterne entre ses cours et des retours réguliers auprès de toute sa famille restée sous la menace, mais qui ne peut la rejoindre faute de moyens suffisants. Christina n'attend rien de l'élection présidentielle. Elle voudrait juste que la guerre s'arrête.
J'ai 20 ans et je peux voter maintenant, mais pour moi, ce n'est pas important qui devienne président. Mais si cette personne peut finir la guerre, c'est une seule condition pour moi qui est importante. Tous les candidats le promettent, finir la guerre. Mais Poroshenko promet aussi de finir la guerre, mais il n'a pas fait. C'est difficile de finir la guerre. Je ne sais rien à propos de ces candidats. Je peux juste lire leur campagne ou les vidéos, la propagande de leur côté, mais ça va être toujours bon parce qu'ils vont que je vote pour eux. En vérité, on ne sait jamais.
Quand vous rentrez régulièrement donc à Lugansk, dans votre région, vous parlez de la campagne avec vos parents, avec votre famille, ils vous disent quoi?
Oui, bien sûr, ils sont plus intéressés que moi et en fait, mes parents veulent voter. C'est un peu difficile parce qu'il faut enregistrer et faire tout ça. Il faut aller sur le territoire ukrainien. Il faut sortir de cette zone, cette zone grise. Je pense qu'ils vont le faire. Mon père est très intéressé, mais il n'a pas choisi encore le candidat, mais il hésite. Et bien sûr que mes parents n'ont plus d'expérience que moi. Ils ont vu beaucoup plus. Et peut-être qu'ils savent mieux que moi.
Les gens que vous connaissez à Lugansk, en dehors de vos parents, famille ou amis, ils s'intéressent à cette campagne présidentielle ou au contraire, ils la rejettent parce qu'ils ne veulent plus entendre parler de Kiev et du pouvoir de Kiev?
Vous savez, il y a une règle, ne pas parler de la politique, particulièrement à Lugansk, parce que la situation est assez difficile. Et la tension est très, très, très dense. Donc, si je rencontre quelqu'un et je veux parler de politique, ça va finir pas d'une bonne manière. Je pense qu'il ne faut pas dépenser la vie et dépenser les moments précieux avec la famille ou les amis par la politique. Je pense que je peux faire tout pour ma vie. Tout. Sauf finir la guerre. Si quelqu'un peut le faire, parmi les candidats, parmi les politiciens, je suis très, très heureuse. Je peux construire ma vie à l'aide de moi-même et pas les politiciens. Il ne faut pas faire la guerre. J'entends la paix dans notre pays. Je veux la paix, sans armée, sans soldats.
Avec la Russie juste à côté, ça paraît quand même très difficile. Une Ukraine sans armée, sans force armée.
J'espère qu'un jour, Poutine va être fatigué de tout cela et il va dire à ses soldats juste rentre. Je comprends à l'intérieur de mon cœur que c'est important de voter. Mais je ne sais pas pour qui.
Présidentielle en Ukraine, la comédie du pouvoir, c'était un grand reportage signé Claude Brouillot, réalisé par Annie Brou.
Grand reportage, t'arraches les gueules.
Et nous sommes toujours avec nos deux invités ici en studio, Anne de Tinguy qui est chercheuse et la journaliste Annie Daubenton. Madame Daubenton, une première question à vous. On vient d'entendre cette jeune fille qui témoigne de ses allers-retours entre l'Ukraine même et cette région séparatiste du Donbass. 13 000 morts quand même, c'est vrai que l'Ukraine est un pays en guerre. Est-ce que cette menace séparatiste, elle pèse dans la campagne électorale? Est-ce que les gens en parlent véritablement? On ne les a pas trop entendus en parler.
Écoutez, ce qui pèse dans cette campagne, c'est la guerre. Et là, on vient de l'entendre, on est tout à l'opposé, aux antipodes de la comédie du pouvoir. Il faut bien voir quelle va être l'importance de cette guerre dans tous les enjeux des candidats à la présidentielle. Quelle que soit leur bonne volonté, leur démagogie, leur surenchère et toutes choses que nous allons voir les uns après les autres. Peut-être rappeler deux ou trois éléments qui ne sont pas inintéressants à dire, quelques chiffres sans en faire trop. 12% des électeurs inscrits pourraient être empêchés de participer au scrutin. Ça, c'est peut-être aussi une des réalités.
Parce qu'ils habitent dans ces régions.
Habitants dans ces régions ou déplacés. On a dit 13 000 morts, oui, mais 1,5 million de déplacés. Donc c'est quand même énorme. Le territoire, l'Ukraine a perdu 7% de son territoire pendant ces 5 années. Donc c'est des données qui sont comme celles-là. Pour le reste, juste pour quelques mots sur le Donbass, c'est une population fracassée, si l'on peut dire. Celle qui n'a pas pu s'enfuir, souvent est une population âgée, qui court après sa pension, sa retraite d'un côté et de l'autre, et après les quelques oboles qu'elles peuvent obtenir, soit des aides humanitaires, soit des deux différents pouvoirs. Mais le concept de séparatiste, moi je n'ai pas le sentiment en tout cas qu'il joue comme argument à l'intérieur de la campagne électorale.
Anne de Tanguy sur cette question.
Alors, est-ce qu'on peut peut-être rappeler, parce que c'est le contexte dans lequel tous ces événements se passent, élection ou pas élection, c'est que maintenant, cela fait 5 ans, on va fêter le 5e anniversaire de l'annexion de la Crimée par la Russie, et que dans les semaines qui a suivi l'annexion de la Crimée, a commencé cette guerre dans le Donbass. Alors, dans le reportage, on a entendu cette Ukrainienne qui disait, mais moi je veux la paix, et peut-être qu'un jour Monsieur Poutine va être fatigué et dira à ses soldats de rentrer chez lui. On n'observe pas de fatigue du côté de la Russie, et je m'appuie pour le dire, notamment sur les événements qui se sont produits dans la mer d'Azov à la fin du mois de novembre, et qui montrent bien la détermination de la Russie à toujours tenter de détourner l'Ukraine d'une voie qui pourrait la mener vers une intégration euro-atlantique, et un désir de Monsieur Poutine de continuer à essayer de ramener les Ukrainiens vers le bercail russe, quel que soit le souhait des Ukrainiens. Et donc le Donbass, c'est une guerre terrible, c'est une guerre larvée qui ne sait pas, il continue à y avoir moins de morts, mais il continue à y en avoir. Et rappelons aussi que les efforts qui ont été faits par la communauté internationale, si on peut appeler la communauté internationale le format de Normandie avec la France et l'Allemagne, n'ont mené à rien du tout. Alors c'était une bonne chose parce que les Ukrainiens n'étaient plus seuls face à face avec la Russie, mais il n'en reste pas moins que ces accords sont dans une impasse et que pour le moment on a un désir de paix des Ukrainiens, notamment des habitants du Donbass, mais qu'on ne voit pas très bien comment arriver à la paix.
On y arrivera en tout cas dans un avenir très très proche. Alors on va peut-être faire avec vous deux un bilan de Petro Poroshenko, qui est l'actuel président qui brigue donc un deuxième mandat, et on s'attendait à ce qu'il caracole en tête. Alors, véritablement, dans les sondages au départ, puisque lui, il est arrivé et qu'il avait remporté haut la main la présidentielle il y a 5 ans. Quel bilan peut-on faire de ces 5 années au pouvoir, Annie Daubenton? Est-ce que vous pensez qu'on peut expliquer pourquoi finalement il n'est plus populaire?
Écoutez, je pense que dans le mandat, si l'on peut dire, de Porochenko, il faut distinguer deux épisodes. Celui de 2014, qui est quand même le chef des armées. Il a pris le pouvoir, enfin il ne l'a pas pris. Il a été démocratiquement élu dans une situation qui était absolument dramatique. Les années 2014-2015 ont été quand même, les réformes ont été lancées assez courageusement dans de très nombreux domaines. L'éducation, la santé, la décentralisation, une certaine transparence de l'État, des corps institutionnels. Les demandes de Maïdan ont quand même été entendues. À partir de, printemps 2015, il y a une sorte de rupture, avec les démocrates qui l'entouraient.
De la part de Porochenko.
De la part des démocrates qui sont partis.
Alors, qui ont quitté,
on peut
pour
dire,
beaucoup
ils ont été limogés, ils sont partis, etc. Mais peu importe. Là, je pense que le phénomène de ce qu'on appelle aujourd'hui de scandale de corruption, etc., a commencé à être terriblement en prise sur le pouvoir, et que Petro Porochenko n'a pas eu la force de briser avec certaines de ses connivences économiques, oligarchiques, et du coup a affaibli terriblement le pouvoir sur lequel il avait quand même 1000 possibilités. Il faut bien voir qu'il avait la majorité au Parlement. Il avait quand même une sorte de vent populaire assez important et...
Il avait le soutien de l'Occident.
Il avait le soutien de l'Occident qui a été... d'ailleurs, je donnais quelques réformes importantes. Bien sûr qu'il y a l'accord d'association avec l'Union européenne. Il y a qui lui ont apporté les visas, l'ouverture vers ce marché. Enfin, il y a eu des élans absolument considérables. Maintenant, je pense qu'à partir de 2015-2016, on a mal vu la lassitude de la population. C'est-à-dire les accords de Minsk, comme disait Anne de Tinguy, qui s'enlisent, qu'on ne voit pas aboutir à quoi que ce soit, et puis le niveau de vie qui diminue, et donc cette population qui a quand même sacrifié sa jeunesse.
Anne de Tinguy, votre analyse sur cette impopularité?
Alors, je suis d'accord avec Annie Daubenton pour dire qu'en définitive, le bilan de Petro Porochenko est en demi-teinte. C'est-à-dire que... Mais est-ce que c'est le bilan de Petro Porochenko ou est-ce que c'est le bilan de l'Ukraine, dont je voudrais saluer la formidable résilience dans un contexte qui est extrêmement difficile, et le rôle que joue la société civile, qui est une société civile qu'Annie Daubenton connaît encore mieux que moi, qui est extraordinairement dynamique. Alors, est-ce que, bien sûr, on peut mettre au crédit de Petro Porochenko les réformes qui ont été faites et qui sont très loin d'être négligeables. Ce sont de vraies réformes.
De quelles réformes parleriez-vous tous... Parce qu'on a beaucoup parlé de la corruption qui fonctionne pas bien. Enfin, je veux dire, la lutte contre la corruption.
Oui, mais
qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui a vraiment été
alors,
fait de positif?
La corruption, là aussi, on voit bien que les choses sont très ambivalentes et à double tranchant. Parce que dans le domaine de la lutte contre la corruption, beaucoup a été fait. C'est-à-dire qu'il y a des institutions qui ont été mises en place, ce fameux NABU, le Bureau de lutte contre la corruption, que d'autre part, pour tous, il y a des règles qui ont été instituées pour passer des marchés publics qui sont très strictes. Le secteur bancaire a été réformé. Maintenant, les fonctionnaires doivent, du secteur public, bien sûr, doivent déclarer leurs avoirs. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Mais en même temps, il y a des conflits de personnes, et ça, on le reproche justement à Porochenko et à lui-même, qui freine le processus de réforme en cours et qui freine la lutte contre la corruption. On a accusé, à tort ou à raison, je n'en sais rien, le président d'avoir protégé un certain nombre de ses proches, d'avoir remplacé les démocrates par des gens qui lui étaient proches et de les avoir protégés lorsque certains d'entre eux ont été accusés de corruption. Et donc, tout ça est difficile là. C'est très c'est très ambivalent. Alors, bien sûr, la question européenne est une question qui est majeure, et là, encore une fois, c'est pas seulement Petro Poroshenko, ce sont les Ukrainiens qui s'efforcent de répondre aux demandes des Européens dans le cadre de l'accord d'association.
On va en parler. Je voudrais qu'on reste un tout petit peu sur la question de la corruption que vous évoquez, quand même en longueur, pour demander à Annie Dumonton, est-ce qu'on peut dire que finalement Petro Poroshenko, oligarque lui aussi, protège peut-être encore un peu ceux qui ont la main mise sur l'appareil d'État, ou bien est-ce qu'au contraire, dans la foulée de ce qui était demandé en 2014, il tente vraiment de faire le ménage, et puis c'est le système finalement qui ne lui permet pas de le faire?
Je pense que vous avez raison pour vos deux questions. Ah. C'est que d'un côté, bien sûr, que écoutez, tout président, et il a un pouvoir fort, essaye de protéger les gens qui le soutiennent. Voilà, c'est un vieux classique de la vie politique. Mais je pense aussi que quand on parle de corruption, on a le sentiment que c'est une sorte de monstre qu'il suffirait de mettre à la porte et de lui dire au revoir, et ma foi, tout irait beaucoup mieux. C'est beaucoup plus complexe, surtout dans cette société, et là, même si dans certains cas on ne peut pas le dire, là c'est quand même une société post-soviétique. Oui. Donc il y a un apprentissage de l'argent qui est très nouveau. Et donc on n'a pas l'habitude. Donc la confusion entre la vie politique et la vie monétaire, si je puis dire, est totale. Ça nous paraît à nous quand même quelque part une absurdité, mais c'est comme ça. Donc ça c'est une chose. Et puis l'autre côté que vous soulignez aussi, c'est qu'il est face à une forte résistance dans toutes les instances. Par exemple, c'est très intéressant en ce moment, il y a ce scandale énorme qui est en train d'entacher sa réputation auprès du ministre de la Défense.
Et en même temps, faut en dire un petit mot peut-être quand même.
Voilà, je reviendrai après. Et en même temps, on a quand même un ministre de la Santé, qui est une femme apparemment tout à fait compétente, remarquable et qui fait un travail fou, et qui se bat contre la corruption. Oui. Et qu'on a essayé de limoger par 3 fois de son poste, et qui finalement est réintégré. Donc là, on a vraiment, je dirais, les deux bouts de la corruption. Et donc, qui est corrompu, c'est une pieuvre, la corruption.
Tout petit mot peut-être de ce scandale.
Alors, pour ce scandale, voilà, c'était un scandale assez compliqué, donc je ne veux pas rentrer trop dans les détails. Il y a deux choses. Il y a un scandale au sein du ministère de la Défense et surtout qui touche le fils du secrétaire adjoint du Conseil de sécurité. Bon, vous comprenez bien que c'est les hautes instances qui gèrent la stratégie de la guerre, si je puis dire. Donc, c'est pas des plaisantins. Et donc, ce charmant jeune homme a fait donc la contrebande de pièces détachées en provenance de la Russie. En plus,
les pièces détachées. Trafic d'armes.
Trafic d'armes en mauvais état. Donc voilà. Et puis, l'autre chose concomitante, c'est que la Cour constitutionnelle a retiré du code pénal une loi interdisant l'enrichissement illicite. Voilà, donc c'est des choses qui ont été...
On voit qu'au très haut niveau du pouvoir, finalement...
Voilà, au très haut niveau du pouvoir, et surtout ce sont la loi contre l'enrichissement illicite, ce sont des choses qui ont demandé des mois, je dirais presque des années, sous la pression du FMI, de l'Union européenne, etc., pour y aboutir. Et là, ma foi, on redégringole un petit peu.
Et là, on voit quand même que c'est le système judiciaire qui ne suit pas, non,
Ce qui est intéressant, c'est que tout ça, finalement, permet de mieux comprendre le phénomène Zelensky, que je trouve en définitive pas si étonnant que cela, parce que ce qu'il montre, c'est que finalement, la popularité de M. Zelensky, c'est pas seulement parce que c'est un homme de télévision que certains ont apprécié, mais que c'est une façon pour la société ukrainienne de dire que, une fois de plus, c'est l'occasion pour la société ukrainienne de dire qu'elle n'est pas d'accord avec son personnel politique. Ça va tout à fait dans le sens de ce que nous disions tout à l'heure sur l'importance de la société civile qui fait pression pour qu'il y ait une avancée sur la voie des réformes. Et il y a un autre point qu'on peut signaler qui est tout à fait intéressant, parce que les Ukrainiens, ils suivent les choses encore beaucoup mieux que nous quand il s'agit de l'espace post-soviétique, ce sont les élections en Moldavie fin février. Là aussi, les Moldaves se sont rebellés. Les Moldaves qui avaient voté, alors je caricature un peu, pro-européen depuis à peu près une décennie, lorsque ces dirigeants pro-européens ne se sont pas bien comportés, de leur point de vue, tout simplement, tout en restant pro-européens, ils n'ont pas voté pour ces dirigeants
pro-européens. Ça pourrait donner des idées aux Ukrainiens.
Mais ça montre bien qu'il faut compter avec ces sociétés civiles, que ce soit en Ukraine ou dans d'autres pays de la zone, en particulier dans les pays qui ont signé un accord d'association avec l'Union européenne.
Parmi les réformes apportées au crédit de Petro Porochenko, il y a sûrement cette création d'une église indépendante en Ukraine. Je voudrais me tourner vers Claude Brouillot qui est encore avec nous à Moscou. Claude, qu'est-ce qu'on peut dire de cette église orthodoxe ?
Bien, on peut dire d'abord que c'est à mettre à l'actif de Petro Porochenko, cette accession à l'indépendance, parce que il s'est impliqué très très fort dans cette démarche et il était notamment présent lors de l'intronisation du nouveau patriarche Epiphanie et on peut aujourd'hui, enfin avec un petit peu de recul, regarder sa progression dans les sondages à ce moment-là. Alors après, effectivement, jusqu'où il faut accorder cette progression à ces démarches de Petro Porochenko pour que cette église donc se libère de la tutelle spirituelle en quelque sorte du patriarcat de Moscou, c'est une question qui reste très présente, qu'on pourra d'ailleurs poser à Annie de Menton ou à Anne de Tinguy, mais la vraie question c'est pourquoi vouloir effectivement à ce moment-là couper le cordon ombilical entre l'église orthodoxe ukrainienne et le patriarcat de Moscou. Eh bien, tout simplement parce que je pense que Petro Porochenko et d'autres avec lui sont convaincus que la hiérarchie ecclésiale ukrainienne orthodoxe proche de Moscou relaie dans la liturgie ou lors des cérémonies les positions de la Russie, les positions du Kremlin. Et Porochenko ne veut plus de ça, évidemment.
On va poser la question à nos invités, oui, Claude. Effectivement. Annie Daubenton, sur cette question.
Écoutez, c'est très compliqué l'histoire de l'église autocéphale ukrainienne. Il faut dire que c'est très important sur le plan également de la construction politique de l'État. Hein, c'est une partie de la souveraineté de cet espace, d'autant plus que cet espace est violé. Voilà, ça c'est une chose. La deuxième chose que je dirais, c'est qu'il faut bien voir aussi que l'église russe, orthodoxe russe sur territoire ukrainien, c'est une prise de possession du territoire. Moi, j'ai vu, le moment où je vivais là-bas, sous mes yeux, quelques églises qui n'étaient fréquentées par strictement aucun pèlerin, construites pour le compte de la Russie. Donc, il y a là quelque chose qui n'a rien à voir avec la religion. Et d'ailleurs, le bascule qui se passe maintenant entre l'orthodoxie russe et l'orthodoxie ukrainienne montre bien cela. Parce que majoritairement, les gens reviennent vers les églises qu'ils ont l'habitude de fréquenter et pour lesquelles ils s'alignent sur l'autocéphalie.
Anne de Tinguy, là-dessus, est-ce que ça peut jouer un rôle politique, véritablement, la création?
Ah, mais bien sûr. Mais en fait, c'est une très longue histoire qui ne date pas de ces derniers mois. Et bon, on peut dire que Porochenko a joué un rôle parce qu'en effet, il s'est beaucoup impliqué. Mais enfin, il est très loin d'être le seul. En fait, rappelons donc ce qui vient d'être dit, qu'il y a eu une église ukrainienne qui s'est créée tout de suite après l'effondrement de l'Union soviétique en 1992, dont l'indépendance n'était pas reconnue, l'église ukrainienne étant sous l'autorité du patriarcat de Moscou. Et c'est cette église ukrainienne créée en 1992 qui a été, dont l'autocéphalie, c'est-à-dire l'indépendance, a été reconnue par le patriarcat de Constantinople. Et donc, en fait, c'est une longue histoire qui marque une nouvelle étape dans la...
Mais je parlais juste de l'instrumentalisation politique, disons, par Porochenko, de cette... Est-ce que ça peut jouer sur les élections, on approche du terme de l'émission. Est-ce que pour vous, ça peut vraiment jouer, par exemple, pour les élections, en faveur du président actuel?
Je pense que ça peut, jouer en faveur de Porochenko. Parce que c'est une partie de l'indépendance de l'Ukraine et de la souveraineté
réaffirmation
retrouvée
de l'Ukraine. La souveraineté.
Donc c'est un point avec lequel les Ukrainiens sont extrêmement sensibles.
Les autres candidats lui ont emboîté le pas, y compris ceux qui, finalement, avaient peu de révérence pour l'Église, se sont mis, eux aussi, à finalement faire part dans leur discours d'un certain nombre d'intérêts pour ce qui était l'Église ukrainienne.
C'est un événement majeur.
D'accord. un événement majeur, oui. D'accord. Donc, il faut vraiment le prendre en considération. Un petit mot encore, mais on n'a vraiment plus beaucoup de temps, juste de Yulia Tymoshenko. Est-ce qu'elle vous paraît une rivale crédible de Poroshenko? Elle est là depuis 2004.
Écoutez,
au moins,
tout dépend à quel niveau on met la crédibilité. Elle est très, très bien installée dans les régions. Elle a une population plus âgée qui lui est très fidèle depuis quand même très longtemps. Elle est dans la vie politique depuis de nombreuses années. Elle a quand même, elle a su se renouveler, faut dire ce qui est, dans les meetings. Elle a fait appel à des professionnels qui étaient quand même des gens plus ou moins crédibles, parfois crédibles, sur le personnage, le discours, ce qu'elle raconte. Vous savez, c'est assez drôle parce qu'il y a une petite ONG qui s'est formée pour guetter les fake news et tout ce qui était redondant dans les discours du président, et sur les mensonges, sur l'exagération. Et elle est au top niveau dans tous les domaines.
Voilà, elle est la première. À donner de fausses informations. Anne de Tinguy, sur elle, vraiment, votre sentiment.
Moi, ce que je voudrais dire, c'est que c'est vraiment une personnalité, ce n'est pas du tout une nouvelle personnalité. Il y a, je sais pas, près de 20 ans qu'elle est dans la vie politique ukrainienne, à un moment où les Ukrainiens ont soif de nouveaux visages. Et donc, ce serait quand même très étonnant que finalement elle soit élue. Mais pour le moment, en fait, on est dans l'expectative la plus totale.
Pas de pronostic véritable de votre part.
Moi, je ne ferai absolument aucun pronostic.
En tout cas, les sondages sont très incertains. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues ici. Anne de Tinguy, vous publiez La Russie dans le Monde, édition du CNRS. Et Annie Daubenton, votre livre 2014 Ukraine, l'indépendance à tout prix. Édition Buchet-Chastel. Par les présidentielles en Ukraine, la comédie du pouvoir. C'était un grand reportage de Claude Brouillot. Merci à lui et à Annie Bro qui réalise cette émission. À la technique ce soir, Jean Frédérics. Vous pouvez réécouter cette émission demain matin dès 6h sur France Culture, mais la podcaster également quand vous le souhaitez sur notre site franceculture.fr.